Frères et sœurs, j'aimerais vous parler ce matin sur la souffrance du chrétien. Car si nous l'ignorions, cette souffrance, c'est que déjà, nous sommes peut-être en train de mourir. La souffrance du corps humain est un avertissement, un avertisseur. Elle nous dit, attention, mets ta main sur le feu. Quand on ne sent plus rien, c'est que la mort est déjà là. Et la Bible parle, le Christ aussi et les apôtres, peut-être un peu plus particulièrement l'apôtre Pierre, nous parle de la souffrance. Mais il a une raison peut-être, c'est qu'il le dit dans son épître, j'ai été témoin des souffrances du Christ. Et il ne peut pas dire, quand on est chrétien, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est impossible. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible, tout au contraire. Je vais lire deux textes, un premier, puis dans quelques minutes un deuxième. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Je vais surtout vous citer des passages de cette épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Il parle de la résurrection et de la protection de Dieu en attendant ce jour. C'est là ce qui fait votre joie. Verset 6. Hein. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, l'or est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Je veux prier quelques secondes devant la parole de ce jour. Donne-nous de l'entendre avec notre cœur, afin que nous nous appliquions à bien comprendre tes projets, tes plans, à bien comprendre aussi notre vie chrétienne, et que nous soyons des disciples accomplis, fidèles, dans les beaux et les mauvais jours. Amen. Je pense que le but de l'épître de Pierre, c'est d'exhorter et de consoler les chrétiens qui sont éprouvés par la souffrance. On le voit bien dans cet épître que j'ai encore relu plusieurs fois cette semaine. On sent que Pierre veut dire aux chrétiens qui souffrent, le Seigneur est avec vous, prenez courage. Parce que, voyez-vous, un chrétien normal souffre. Un chrétien normal ne vit pas dans les nuages. Ou alors c'est un chrétien ressuscité, mais il n'est plus sur la terre. Il souffre, le chrétien normal, pas à cause de sa méchanceté, pas parce qu'il s'infiltre dans les affaires des autres, mais il souffre parce qu'il a choisi le Christ. Et quand on choisit le Christ, on ne vit plus de la même manière. Pierre le dit, on n'est plus dans le même débordement de débauche. Donc on est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Et comme le Christ, nous souffrons. Nous souffrons comme lui. Et Pierre, dans cette épître, va encourager les églises, notre église et moi-même aujourd'hui. Il va nous encourager à nous aimer très fortement. Aimez-vous ardemment devant les souffrances. Et priez, vaquez à la prière. Parce qu'une église qui prie, comme le mardi soir par exemple, une église qui est soudée par l'amour fraternel, c'est une église qui pourra consoler les autres qui passent par des souffrances, c'est une église qui résistera aux agressions du monde, à l'esprit du monde, au complot et à la méchanceté du malin. Donc les chrétiens souffrent, ne soyez pas surpris. Ils se comportent honnêtement, normalement, et ils subissent des injures. Donc il y a quelque chose d'autre, parce qu'il y a des gens dans le monde qui vivent n'importe comment et qui ne subissent pas d'injures. Il faut comprendre nos souffrances. Pierre, dans cette épître, nous appelle non pas à la résignation, mais à la foi. Pas à baisser la tête en disant ben, « c'est comme ça, il faut mourir ». Il nous appelle à l'espérance et à penser qu'ainsi nous ressemblons à Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, et si j'ai la croix sur mes épaules, c'est que je ne suis pas loin de Jésus. Il va développer dans toute cette épître l'aspect positif des souffrances. Je ne recherche pas la souffrance, ce n'est pas là mon but, mais je la subis. En tant que chrétien, en tant que pasteur, dans ce petit texte que nous avons lu ensemble, il y a quand même un mot qui est étonnant. Puisqu'il le faut, vous êtes attristés par diverses souffrances, par diverses épreuves, parce qu'il le faut. Comme Jésus disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux païens, qu'il souffre, etc. Il faut. Il faut que vous souffriez. Il y a donc des souffrances qui sont dans la volonté de Dieu. Pierre le dit. Ce qui veut dire pour moi que dans certaines souffrances, Dieu n'est pas absent. Dieu est avec moi. Il y a des souffrances qui font partie du chemin avec Dieu. Et Dieu est là. Mais Pierre ajoute, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves pour un peu de temps. Un peu de temps. D'abord parce que votre vie est courte. Toute chair est comme l'herbe, elle fleurit comme la fleur des champs. C'est Pierre qui le dit encore. Et puis, le Seigneur vient bientôt. Amen. On ne souffrira pas pendant des millions d'années. Et puis, il y a aussi, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, au-delà de vos forces. Amen. C'est vrai. Donc, vous êtes dans la souffrance pour un peu de temps, mes frères et sœurs. Ce soit réconfortant pour vous. Et Pierre dit quelque chose qui est étonnant. Il dit que les souffrances avec Dieu, les souffrances à cause de Jésus, nous purifient. Comme l'or qu'on met dans le feu pour purifier l'or de ses saletés, ses scories, ses impuretés. Et c'est vrai que dans les jours de souffrance, eh bien, il y a des choses qui sont vraiment banales, bêtes, qui partent de nous, les scories. On renonce à tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est insignifiant. Dans la souffrance, on se concentre sur le Seigneur, on résiste avec la parole. Ça nous oblige à prier, à faire confiance, à appeler Dieu. La foi se purifie. On ne demande pas quand il pleut, Seigneur, donne-nous du beau temps. On a autre chose à demander. Et quand le Seigneur viendra, parce qu'il viendra un jour et il va nous surprendre, vous allez voir. Notre foi qui a été purifiée par le pèlerinage de souffrance et qui est cachée en nous, cette foi, elle sera montrée à tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, il n'est pas ici. Il m'a dit, je vais être décoré par le président de la République, j'aime pas trop ça. La croix du mérite, etc. Et le préfet et toute la région va être présente. J'aurais pas voulu tout ça. Mais quand on sera dans le ciel, quand nous aurons parcouru cette terre avec les souffrances obligatoires du chrétien, notre foi sera montrée. Et les chrétiens qui ont été souvent humiliés, ils recevront de Dieu une louange. Regardez bien la sœur là-bas qui vient, dira peut-être le Seigneur. Elle a souffert, elle est restée joyeuse, elle est restée confiante, elle est restée priante. Elle a chanté dans les cultes comme si elle n'avait rien. Elle a donné de sa vie pour les autres. Nous recevrons la louange. Nous recevrons une gloire de Dieu. Nous recevrons l'honneur de Dieu. Amen. Je ne crois pas qu'on rougira dans le ciel. Parce que ce sera la vérité et parce que nous serons des êtres nouveaux. Et nous aurons, nous qui avons supporté tout cela sur la terre, une joie ineffable, c'est-à-dire une joie que je n'ai pas le droit de vous dire, que je ne saurais pas vous dire. Une joie que je ne connais pas. Nous aurons une joie céleste parce que nous aurons souffert avec Jésus. Nous régnerons avec lui. Amen. Jésus disait dans le sermon sur la montagne, votre récompense sera grande dans les cieux. Je crois que pour moi, c'est une raison d'espérer, c'est une raison de garder notre joie parce que nous avons un avenir splendide. Merci Seigneur, amen. Si nous regardons aux choses de la terre seulement, on va seulement penser à être guéri de son corps aux pieds, guéri de ses douleurs, guéri peut-être de petits problèmes matériels, mais il faut voir les choses à venir, amen. Nous régnerons avec le Seigneur. D'où viennent ces souffrances ? C'est notre transformation qui les provoque. C'est notre obéissance à Jésus qui les provoque. C'est notre régénération qui les provoque. Notre sainteté. C'est notre nouvelle manière de vivre qui fait que, boum, boum, on prend des coups. Parce que notre sainteté, notre nouvelle vie, elle n'est pas que intérieure, cachée. Elle est aussi extérieure dans la conduite. Ça se voit. On voit la nouvelle vie dans notre comportement familial, professionnel, de voisinage. On ne fait pas ça pour se démarquer en disant tout le monde s'habille en blanc l'été. Nous, on va s'habiller en vert pomme avec des pois rouges. On ne fait pas ça pour se démarquer, en disant on veut être différent des autres. Mais on a une conduite parce que on a la crainte de Dieu. La crainte, c'est-à-dire que on l'honore, on a une révérence pour Dieu. On prend Dieu au sérieux. On a du respect pour Dieu. Et à cause de cela, on vit de manière respectueuse, révérencieuse. Puis les gens finiront par le voir. On ne rit pas des mêmes blagues. On ne regarde pas les mêmes choses. Et c'est justement ce qui provoque une différence qui va faire que nous allons souffrir. Différence de vie par rapport à avant. Différence de vie morale, différence de vie familiale, différence de vie professionnelle. alors ça provoque des calomnies, des agressions, de la méchanceté, des pressions. Déjà, en nous, il y a une lutte qui donne une souffrance. Ce sont les convoitises, dit l'apôtre Pierre. Il y a des convoitises qui font la guerre à l'âme. Et on dit non, c'est fini, ce n'est plus notre manière de vivre. Il y a une souffrance constamment. Surtout chez les bébés chrétiens, ceux qui viennent de naître tout juste là. Il y a encore en eux parfois des convoitises. C'est pourquoi, dit Paul, Pierre, il faut leur donner un lait de qualité. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux personnes nouvelles. Il ne faut pas dire n'importe quoi à ceux qui viennent de prendre le baptême. Il ne faut pas leur parler de nos songes, de nos visions, de nos impressions. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Il faut dire ainsi parle le Seigneur. Regarde la Bible, mon frère. Lis sa parole. Imprègne-toi de ce qu'il dit. Imprègne-toi de ses promesses. Il faut leur donner le vrai lait, le lait maternel, le lait paternel, la parole du Seigneur. Amen. Oui, nous avons des souffrances en nous. Oui, nous avons des souffrances autour de nous. Mais il ne faut pas que ça provoque une rupture. Il ne faut pas dire, puisque c'est comme ça, je ne sortirai plus de chez moi. Je regarderai le culte sur Internet. Comme ça, je n'aurai plus de problème. Non. Il faut annoncer les grandes œuvres de Dieu. Il faut annoncer celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il faut l'annoncer. Il faut une bonne conduite pour qu'on voit nos bonnes œuvres. Il faut dire avec respect et douceur l'espérance qui est en nous. Il faut vivre dans le monde, même si dans le monde on est calomnié, critiqué, humilié, moqué. Les chrétiens demain seront dans des zoos. On dira, venez rire, il y a des chrétiens aux zoos. C'est ce qu'on a dit il y a 2000 ans. On mettait les chrétiens dans des cirques à Rome, même en France aussi, hein. On mettait les chrétiens dans des cirques, puis on faisait venir la population, mais avec les chrétiens, on mettait quand même quelques lions pour que ce soit plus drôle. Et je crois que le temps est venu où les chrétiens seront quand même des denrées rares et seront regardés et pointés du doigt. Les chrétiens, donc, sont appelés à cela. Parce qu'ils prennent des distances par rapport aux convoitises charnelles. Parce qu'ils ne veulent pas se renier eux-mêmes. Parce qu'ils veulent, dans toute leur vie, continuer de témoigner, d'attester, même de contester l'atmosphère de notre temps. Je lisais hier soir, sur Internet, une annonce qui est passée. À partir de la rentrée scolaire, dans toutes les classes, les plus petites jusqu'aux plus grandes, un programme a été donné pour dépasser la vieille idée, vieille comme le monde, hein, qu'il y a sur la terre du masculin et du féminin. Vous êtes peut-être au courant. C'est le ministre de la Culture qui a fait, le ministre de l'Éducation qui a mis tout cela en marche. C'est-à-dire qu'on va arracher le modèle classique. Moi, je suis né garçon, d'autres sont nés filles, c'est comme ça. Bon, merci Seigneur, amen. Et bien maintenant, chacun sera ce qu'il veut. Vous me demandez si je veux une fille? Mais attention, tous ceux qui résisteront subiront la violence homophobe et auront des sanctions. Et les professeurs seront sanctionnés. Extraordinaire, hein? On va vivre dans ce monde-là. On sera enseigné. Les enfants, nous, on ne va pas nous toucher outre mesure, mais pensons à nos enfants. Ils seront enseignés sur toutes les sexualités. Inceste, animal, homme, animal. Chacun décidera s'il veut rester un garçon, une fille, s'il veut changer tous les jours de sexe. Et puis certes, quelqu'un a dit de bien placer en France, il n'y a pas d'inconvénient à la polygamie, il n'y a pas d'inconvénient à relations sexuelles animales, il n'y a pas d'inconvénient à l'inceste, tout peut être essayé. Ce sera dit dans les écoles. Et déjà, on passe des films pour l'éducation sexuelle, des films pornographiques qui traumatisent. Et quelqu'un d'intelligent a dit, on va retrouver des jeunes dans les hôpitaux psychiatriques pour schizophrénie et il y aura un taux de suicide extraordinaire dans la jeunesse d'ici 5 ans. Les enfants choisiront leurs parents. On n'a jamais vu ça, hein. C'est le loup qui est entré dans la bergerie. Le loup ne frappe plus à la porte, il est déjà rentré. Et je crois qu'il faut sonner l'alarme, le tocsin. Et je pense qu'il faut que l'on sache que le chrétien dans ce monde-là aura beaucoup de soucis pour ses enfants, beaucoup de soucis pour sa vie personnelle. Il y aura des souffrances. Non, vous comprenez maintenant, parce qu'il y aura des sanctions. Je l'ai lu. Les enfants qui ne rentreront pas dans ce circuit seront ridiculisés. Alors ils diront à leurs parents peut-être, « Papa, est-ce qu'il faut qu'on continue à aller à l'église ?» Parce que l'église dit le contraire. Voyez-vous ? Et quelqu'un a dit, « On va déraciner la foi chrétienne. » Si nous adoptons cet état d'esprit, frères et sœurs, nous allons perdre nos forces chrétiennes, bien sûr. Nous allons y perdre notre pureté, notre fraîcheur, notre message, notre vie avec Christ, notre couronne, notre place dans le royaume de Dieu. Et il faudra y résister à tout cela. Frères et sœurs, il faut retrouver les valeurs et les belles œuvres. Ce ne sont pas forcément devant les gens de prier à genoux dans les rues. Ce n'est pas cela tellement. Je pense que les belles œuvres des chrétiens, ce sont les valeurs communes. Tout ce que les hommes sur la terre auraient envie de vivre, de bien. C'est-à-dire être des gens de bien, être des gens respectueux. Être des gens attachés à la vraie vie. Alors il y a une souffrance, on le voit chez Pierre, on le voit aujourd'hui, et elle va se matérialiser, mais Pierre le dit, par la moquerie et le mépris, la calomnie. Mais le Seigneur dit dans son épître que Dieu peut visiter ces personnes un jour. Ce qui veut dire que notre chemin douloureux peut servir de chemin à Dieu pour aller chercher les âmes perdues. Amen. Il faudra résister. Il parle dans son épître des domestiques, des ouvriers, qui, à cause de leur conscience pour Dieu, à cause de leur respect pour Dieu, veulent rester dans la ligne de Dieu et souffrent. Surtout, à plus forte raison, ceux qui ont des employeurs, des patrons avec un caractère tordu. Ces gens-là, ces frères-là, ces sœurs souffrent. Nous souffrons aujourd'hui dans le monde du travail. C'est une souffrance injuste. Nous l'acceptons pour rester fidèles à Dieu. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors on reste fidèle, mais ça nous donne des souffrances, des mises à part. Pierre nous dit, dans toutes ces souffrances, c'est une grâce devant Dieu. Et le mot grâce ici, il faut le comprendre dans le mot charme, beauté. Devant Dieu, il y a de la beauté. De voir des hommes qui résistent dans la souffrance à cause de Jésus. C'est beau, c'est élégant, c'est une grâce devant Dieu. Il faut accepter tout cela en regardant celui qui a été moqué le plus, Jésus-Christ. Je pense que Jésus est vraiment le modèle des esclaves, le modèle des ouvriers méprisés, le modèle aujourd'hui de beaucoup de gens, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Vous avez un modèle, mes frères, mes sœurs, qui souffrez dans votre maison, dans votre travail, dans votre voisinage. C'est Jésus qui a souffert aussi. Et la Bible dit, Pierre dit, n'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur dans votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier le Seigneur? Cela veut dire, mettez le Seigneur très haut devant vos yeux. Reconnaissez sa supériorité. Reconnaissez qu'il est Seigneur sur tout. Reconnaissez qu'il domine sur toutes vos situations. Rien n'échappe à son regard. Vous êtes dans sa main. Il est le gardien de vos âmes. Il est le protecteur de votre vie. Quand vous souffrez, le Seigneur est là. Amen. Faut le regarder. Sanctifier, élever le Seigneur. Ça va? Je peux continuer? Pierre nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Je pense que dans le combat que nous allons mener de plus en plus fort, il ne faudra pas s'occuper, s'embarrasser trop des affaires secondaires de la vie. Je n'ai pas dit des affaires secondes, parce qu'il y a le travail, il y a la maison, il y a la voiture, on ne peut pas vivre sans voiture, il y a tout cela. Mais les secondaires, ce qui vraiment est insignifiant. Il faut qu'on ait une lucidité sur la croissance du péché dans le monde. Il faut qu'on ait une lucidité. Pendant les années de mon enfance, j'ai l'impression que ça a évolué très, 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 très lentement. On ne voyait rien de spécial dans les journaux. Aujourd'hui, ça va très vite. Le mal abonde, mais la grâce surabonde. Amen. Il faut avoir donc une lucidité sur l'accélération du temps pour avoir une attitude juste. Il faut une vigilance sur les enfants, sur la télé et l'ordinateur, et les portables et les fréquentations. Et face à la souffrance, dit Paul, ayez un ardent amour, une ardente charité. J'ai l'impression que Pierre, il a peur que la charité se refroidisse. Il faut toujours mettre du charbon. Il faut toujours plus s'aimer. Il faut entretenir l'amitié. Parce que dans les derniers temps, la charité se refroidira. Et devant la souffrance qui nous entoure, il nous faudra s'aimer beaucoup et prier beaucoup. Et avoir des relations fraternelles, sans dire aucun mal des autres, des frères, des sœurs, et puis s'aimer ardemment. Amen. Je vais vous lire un dernier texte pendant quelques instants pour conclure. C'est au chapitre 4, verset 12. 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés, c'est bien de dire mes bien-aimés. Il faut qu'on sente l'amour. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Amen. C'est une participation. On prend part à ce qu'il vit. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Il ne faut pas que nous soyons surpris de rien. Pierre avait dit, ce sera pour un peu de temps. Puisqu'il le faut. Les chrétiens me disent, est-ce que c'est normal ? Pierre, pour conclure cet épître, il dit, il faut savoir que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Parce qu'on me l'a dit dans mes oreilles. Est-ce que vraiment la grâce que vous annoncez est la véritable ? Puisqu'on n'est pas de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, puisqu'on n'est pas débarrassé de tout ce qui nous environne. Pierre, il dit, cette grâce que je vous annonce, c'est la véritable, mais elle n'est pas sans souffrance. Il dit même que c'est comme une fournaise qui me fait penser aux trois amis de Daniel dans la fournaise ardente. C'est le chemin du chrétien normal. C'est mon chemin depuis des années. Mais je me dis toujours, c'est une épreuve dans laquelle le Seigneur est présent, comme l'ange qui était dans la fournaise ardente. Et ce que nous subissons d'agressif, de dur, n'est pas une sanction de Dieu. N'est pas une punition de Dieu. Parce que nous aurions été infidèles, nous sommes tous quelque part. Et puis, il ne s'agit pas pour moi d'imiter les souffrances de Jésus, de me flageller, de me mortifier. Mais ces souffrances arrivent toutes seules. Et quand elles sont là, elle me met en relation, en rapport avec Jésus souffrant. Car ce sont les souffrances du Christ qui sont en moi. Jésus souffre d'être moqué, et moi je suis moqué aussi, et vous aussi. Ce sont les souffrances du Christ. Et quand on les vit, on se prépare à la gloire avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Pierre dit même que c'est une joie de vivre ce combat, parce que nous aurons un jour la joie de la gloire avec Dieu. Mais ce sont des souffrances, permettez-moi de vous le dire, à cause de son nom, c'est-à-dire à cause de Jésus. Si je parle mal et que j'en subis des conséquences, là, ce n'est pas des souffrances chrétiennes. Si je vole, si je triche, si je ne suis pas droit quelque part dans ma vie et que j'en subisse des conséquences, là, il ne s'agit pas des souffrances pour Christ. Mais quelle souffrance ? Précisons, on termine. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, on ne parle pas des persécutions ici, on ne parle pas des fauves, des persécutions chrétiennes du IIe siècle. Il parle de tout ce qui allait vivre, tout ce qui allait suivre dans toute l'histoire de l'Église. Des outrages. Qu'est-ce que ça veut dire, outrage ? Incompréhension de l'entourage. Dénigrement. Calomnie. Et même, a dit Jésus, le tribunal. Comme malfaiteur. Ça, c'est l'outrage. Et quand on est fidèle au Seigneur, on subit des outrages. Mais il y a une promesse. Voulez-vous que je vous la lise ? Quand nous sommes outragés pour le nom du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur nous. C'est beau. C'est grandiose. Ce n'est pas encore le moment que je vous parle de ce que j'ai vécu avec cet Esprit de Dieu dans les moments les plus difficiles, être porté d'une manière physique par l'Esprit de gloire. Et ça, je crois que c'est le lot de tous les chrétiens qui vivent des choses difficiles. Il y a donc un lien, un rapport entre l'outrage et la présence du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est un avocat, c'est un défenseur, c'est un consolateur. Il nous donne vie quand ça va mal. Soyez sans crainte, dit Jésus, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Amen. C'est un contrepoids face aux outrages. On te dénigre, on t'humilie, on t'abaisse. Mais en nous, mais en moi et en vous, et l'Esprit du Seigneur qui dit, en avant, tu es enfant de Dieu. Et je le suis. Amen. À cause du mot de chrétien. Oh, vous savez, chrétien, ce n'est pas notre nom de marque. Ce n'est pas une marque, chrétien, comme Opel ou Simca. Au début, les chrétiens, c'était un juron, c'était un mot qu'on disait pour ridiculiser les chrétiens. Ce sont des chrétiens, des petits christs, suivent le Christ. Puis c'est resté. Puis les pères de l'Église ont commencé à écrire, eh bien, chrétiens dans leurs écrits, et puis c'est resté, puis on porte ce nom-là, mais ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'étiquette qui compte. Pour moi, chrétien, ça veut surtout dire « j'appartiens au Christ, je suis du Christ, je vis pour le Christ. » Amen. Je conclue. Frères et sœurs, dans les souffrances que nous traversons déjà, Pierre, il conclut en disant que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, parce qu'ils auront pris la croix avec Jésus, parce qu'ils auront dit dans le baptême « Je veux te suivre, Seigneur, par tous les temps », eh bien que ces chrétiens remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Il n'est pas dit « Priez, vous n'aurez plus de souffrance ». Il n'est pas dit « Priez et vous serez délivrés de tout mal ». Vous continuerez de porter la croix, mais remettez vos âmes au Créateur. « Seigneur, je te remets ma vie ». Pour qu'elle soit toujours dans la joie, amen, et toujours dans la confiance. Mais pas de triomphalisme. Moi, je suis capable, moi, non, pas de triomphalisme, pas de résignation, pas d'amertume sur les autres. Imitez le Christ quand il était flagellé, il remettait son âme au fidèle Créateur, au juge, Dieu son Père. Et Pierre dit, remettez vos âmes en faisant ce qui est bien. Ça, c'est compliqué. Parce que quand on va mal, on a envie de se renfermer dans sa coquille en disant « c'est fini, on n'entendra plus parler de moi ». Eh bien, Pierre, il dit « vous êtes la lumière du monde, continuez de faire du bien à la société autour de vous, tendez la main, et si on vous invite à la fête des voisins, allez-y. Amen ». Mais faites attention. Dans vos souffrances, dit Pierre, à la fin de son épître, je ne lis pas, vous connaissez le texte par cœur. Le lion rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Parce que dans la souffrance, même pour Jésus, où Dieu est présent réellement, le diable n'est pas loin. Il rugit seulement, mais ça fait peur. Puis il essaye d'obtenir de nous des démissions, des reniements. Il avait réussi avec Pierre, le reniement. Il a réussi avec Pierre. Terrible. Dans les outrages, j'ai compris, il y a la patte du diable aussi. Quand on nous jette à terre, quand on nous fait mal, Satan n'est pas loin. À travers des gens, Satan nous crible de flèches. Que ce ne soit pas à travers les chrétiens. Car où est notre ennemi ? Notre ennemi est-il ici ? Où est-il dans les régions célestes avec Satan ? notre ennemi est-il face à l'immoralité du monde ? Je n'ai pas dit au monde. Notre ennemi est-il dans l'immoralité, dans le dérèglement, dans l'esprit du monde ou au milieu de nous ? Il est où ? Dans l'esprit du monde. Mais qu'il ne rentre pas dans ma tête ni dans la vôtre. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Amen. Ce qui est beau, c'est que ce sera court. Amen. Et que pendant ce temps-là, Dieu nous fortifie, nous édifie, nous construit pour qu'en arrivant là-haut, on ne soit pas des chrétiens rabougris, des lumignons qui fument, mais qu'on soit des flambeaux qui disent « Le Seigneur était avec moi et je suis maintenant son enfant pour l'éternité. » Amen. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Permets qu'en ce jour, nous puissions écouter tes enseignements sur la souffrance, parce que tu sais dans quel temps nous sommes. Nous le savons aussi un peu, et nous voulons tenir avec force l'étendard de la parole, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Garde-nous dans notre engagement de baptême. Garde-nous dans la fidélité. Tiens-nous fermes sur le rocher. Le vent souffle, mais nous sommes attachés à toi. L'Église est la cible du malin, mais nous sommes dans les mains du Seigneur. On ne peut pas nous toucher sans te toucher. Personne ne nous ravira de ta main. Nous voulons te remettre nos vies afin que nous soyons attachés sans défaillance au Seigneur pour toujours. Amen.